mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Et je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Retrouvez toute l'info chartreusine sur Radio Couleur Chartreuse.
Du lundi au vendredi, en direct.
À 9h.
Dans Chartreuse Info. Chartreusins, chartreusines, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 mars et c'est un Chartreuse Info très dense que je vous propose. D'abord, nous aurons Florence Rata, notre psychologue et sophrologue. Alors c'est la dernière fois qu'elle fait une rubrique, elle sera en deux épisodes. Un épisode aujourd'hui, un épisode demain. Le thème, c'est les troubles psy en lien avec l'alimentation. Donc c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. En fait, les psys sont vraiment submergés en ce moment par les demandes et donc elle va faire une petite parenthèse. Et puis on va parler aussi avec Vincent Legris, qui est référent de proximité à la mission locale sur l'avant-pays savoyard, d'un salon job d'été qui va avoir lieu le samedi 24 avril 21 à Saint-Alban de Montbel, c'est vers Aiguebelette, à la salle François Cachou pour les jeunes de 16 à 29 ans. Donc des infos très intéressantes parce qu'on sait tous que les jeunes là et les étudiants par exemple sont vraiment en difficulté à cause de la pandémie pour trouver des petits boulots et des boulots d'été. Et là il y a quand même 250 postes qui sont proposés. Et puis bien sûr, on n'oublie pas les rubriques habituelles, la rubrique prénom, la rubrique horoscope et info locale. Mais pour commencer, on va souhaiter un très bon anniversaire à Jean-Jacques Debout, qui est né en 1940, un 9 mars, ce qui lui fait donc quand même 81 ans. Il est né à Paris, c'est un auteur, compositeur, interprète français qu'on ne présente plus. Il était très connu dans les années 60.
Ce bateau qui part aujourd'hui pour les anciennes colonies doit faire une escale au pays où naquirent Paul et Virginie. J'aimerais partir à son bord avec toi, changer de décor, voir si la mer se fâche encore, retrouver ses rivages d'or. Reprendre les anciens chemins qui montent vers l'état marin, revivre ce roman d'amour quand Paul attendait son retour. Pour un jour, une nuit, on devient Virginie, les seuls à ta vie. Pour vivre l'amour le plus sage, pour un jour, pour la vie, on devient. Partons tous les deux pour vivre l'amour le plus merveilleux. On connaît la fin du roman, de l'amour de ces deux enfants qui avaient grandi tous les deux, loin des villes et des ambitieux. Alors toi que j'ai tant aimé, à force de se déchirer, ne crois-tu pas qu'il serait temps de se retrouver comme avant? Je sais que tu vas revenir, qu'un jour prochain on va partir, tout là-bas vers ce paradis où s'aimèrent Paul et Virginie. Pour un jour, une nuit, reviens Virginie, laisse-la ta vie. Pour vivre l'amour le plus sage, pour un jour, pour la vivre, deviens Virginie. Partons tous les deux, pour vivre l'amour le plus merveilleux.
Vous écoutez Radio Couleur Chartreuse. On est bien.
Aujourd'hui, eh bien, c'est la Sainte Françoise. Quelle est la signification de ce prénom? Eh bien, il vient du mot latin francus, qui signifie libre ou alors franc. C'est aussi dans notre langue la forme ancienne du mot française. Ce qui explique que ce prénom ne soit attribué que en France. Il n'a pas du tout de portée internationale. Alors, il faut savoir qu'au XVe siècle, Sainte Françoise, elle a fondé la congrégation des Oblates de Saint-Benoît, dans laquelle elle s'est réfugiée après la mort de son mari. On lui attribue plein de miracles et de visions, et elles sont détaillées dans le traité de l'enfer qui figure parmi ses nombreux écrits. Et elle est morte en 1440, ça remonte pas à hier, alors qu'elle soignait son fils gravement malade. Au niveau de l'histoire, alors le prénom Françoise, il découle du prénom ancien Franciscus, lui-même apparenté au terme latin Franci, qui signifie franc. Alors ce prénom, il a connu son apogée dans les années 50, bien sûr, et il est porté par environ 400 000 personnes en France. Cependant, ce prénom, il tend à décliner, il ne devrait pas être attribué à beaucoup de bébé actuellement. Françoise, donc, on l'a dit, c'est un prénom exclusivement français et il est parfois traduit en dehors de la francophonie. Mais alors là, il est transformé en Ziska ou Siska, Francesca ou même Paquita. Au niveau du caractère, les Françoises sont idéalistes, parfois même un peu naïves, elles sont très altruistes, elles sont et donc malgré leur idéalisme à toute épreuve, elles ont un esprit logique très développé, elles savent prendre des décisions avec intégrité et assurance, elles aiment particulièrement les moments de calme et de solitude. Leur adage, c'est « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Dans les Françoises célèbres, et bien sûr, il y en a vraiment beaucoup. On peut citer la pédiatre et psychanalyste Françoise Dolto, la chanteuse Françoise Hardy, les journalistes Françoise Laborde et Françoise Giroux, mais on retiendra aussi Françoise Sagan, romancière et auteure dramatique. Il y a aussi la joueuse de tennis Françoise Dürr, l'historienne Françoise Leroux, et etc. On va pas toutes les citer. On va pas oublier quand même Françoise d'Orléac, la sœur de Catherine Deneuve, qui est décédée très jeune dans un accident de voiture. Donc la moyenne d'âge des Françoises en France, c'est 72 ans et on leur souhaite une très bonne fête. Juste après, on va retrouver Florence Rata pour parler des troubles psychologiques en lien avec l'alimentation, vaste sujet. Et du coup, pour se mettre dans l'ambiance, eh bien, on va écouter Valérie Lemercier, un petit sketch qui s'appelle « La cuisine », parce que figurez-vous que c'est son anniversaire, elle est née en 1964. On l'a vu dans « Les Visiteurs » en 93, dans « Palais Royal » en 2005, « Fauteuil d'orchestre » en 2006, « Le petit Nicolas », etc. C'est une actrice vraiment très sympa et marrante.
Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Madame, vous courez souvent après le temps, les enfants, le travail et ce fichu dîner à préparer pour le patron de votre mari qui vient dîner ce soir avec sa dame. Attention, pas avec Saddam Hussein, sa dame, sa meuf. Je vous propose une recette facile, économique et pratique, succulente surtout à réaliser avec notre ingrédient du jour, l'huile. Commencez par verser dans un saladier environ un demi-litre d'huile. Versez énergiquement de façon à réveiller les molécules grasses. Bien, lorsque vous avez fini, vous laissez reposer. Dans un bol à soupe classique, versez environ un quart de litre d'huile que vous allez mélanger avec 2 cuillères à soupe d'huile. 1 et 2. Voilà. Vous allez maintenant mélanger énergiquement votre saladier d'huile avec votre bol d'huile dans une casserole. Ajoutez rajouter une dizaine de verres à kirsch d'huile, petit à petit, pour que le mélange prenne bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est une partie importante de la recette, puisque vous mélangez l'huile à l'huile. Quand vous avez terminé, vous laissez reposer à feu doux. Voilà, dernière partie, la plus facile, vous allez couper des petits morceaux d'une brique d'huile congelée que vous allez disposer dans une assiette que vous aurez au préalable remplie d'huile. Voilà! Vous disposez maintenant dans votre plat huilé des petits morceaux d'huile congelée, comme ceci. Voilà. Vous nappez avec votre casserole remplie d'huile tiède que vous aviez fait cuire au préalable. Et vous versez 1/4 litre d'huile sur l'ensemble. Voilà. Je goûte. Ça manque peut-être un petit peu d'huile. Vous recouvrez le tout avec un bon litre d'huile. Si vous n'avez pas d'huile, vous pouvez toujours utiliser de l'huile. Voilà. Servez le tout avec une bonne bouteille d'huile et de la margarine en accompagnement. Voilà, la prochaine fois, je vous apprendrai à cuisiner une autre matière grasse, le beurre. Bonsoir, merci d'avoir suivi cette recette et à la semaine prochaine. Si vous voulez retrouver cette recette, n'hésitez pas à aller sur notre site www.cuisinegourmand.com ou sur Minitel 3615, code cuisine gourmand. Au revoir.
Bonjour Florence, merci d'être avec nous. Alors c'est le dernier épisode d'ActuAPsy, si j'ai bien compris.
Et oui, bonjour Catherine, bonjour à tous. Bah, je suis vraiment désolée de devoir vous quitter, mais comme vous l'avez certainement appris par les infos ou autres, les psys, là, on est actuellement bien débordés. Et j'avoue que ce qui ne veut pas dire que je reviendrai pas vers vous un peu plus tard, mais pour le moment, je dois suspendre l'activité de radio pour me consacrer à mes patients.
Oui, non, mais c'est pas un adieu, hein, c'est juste un au revoir.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Donc, on poursuit notre analyse de la psychologie humaine. Et là, on va se pencher sur la psychiatrie nutritionnelle qui serait l'avenir du traitement en santé mentale. Et on va se poser la question, est-ce que la santé mentale se lie dans l'assiette ?
Eh bien, oui, bien sûr, à un certain moment. La nourriture, c'est un temps de plaisir, de convivialité qui est essentiel à l'être humain, hein. C'est un des premiers besoins fondamentaux quand nous venons au monde. La première chose qui se déclenche, finalement, c'est la faim chez le nouveau-né qui va aller chercher soit le sein de la mère, soit le biberon. Mais en tout cas, ça va être ce temps avec cette tension digestive qui va nous accompagner dans notre arrivée dans le monde.
Oui.
Si je puis dire. Voilà, oui. Quelques minutes, voire quelques heures après l'arrivée au monde.
Oui, il paraît que même quand l'enfant n'est pas encore né, selon ce que sa maman mange, ça peut aussi avoir une influence.
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que bon, la barrière placentaire laisse passer les goûts. Hein, donc l'enfant peut déjà avoir connaître un petit peu qu'est-ce que c'est que mettre en place, en tout cas au niveau du cerveau, toutes les aires en lien avec la gustation, avec l'alimentation, hein, tout est prêt,
oui.
Tout est connecté. Par contre, on voit justement, puisqu'on en parle, que chez certains prématurés, malheureusement, quand évidemment plus la prématurité est précoce, plus l'enfant devenu adulte ou ado risque de développer des troubles des conduites alimentaires.
Ah bon ?
Parce que le système digestif n'est pas mature au moment de l'arrivée sur Terre. Et malheureusement, il y a le plus souvent, les enfants sont nourris par perfusion ou par sonde entérale. Et du coup, il y a certainement là des pathologies qui peuvent se mettre en place, une maturation pas suffisante au niveau du cerveau qui est en lien avec cette satiété, la sensation de faim, d'être nourri, etc. Voilà. Donc, bon, ça fait partie des prédispositions. Ça ne veut pas dire que tout prématuré développera des troubles, mais évidemment, ça prédispose.
Et puis la question qu'on peut se poser, à mon avis, c'est depuis qu'il y a le biberon, en fait, il y a énormément d'enfants qui sont nourris au biberon et en fait, tous les biberons ont le même goût. Alors que, par exemple, le lait maternel, selon ce que la maman mange, va avoir un goût différent. Est-ce que ça peut jouer ?
Oui, alors bon, après ça va jouer sur la diversification des reconnaissances des goûts au niveau du cerveau pour l'enfant. Mais ça ne jouera pas, a priori, de ce que l'on sait aujourd'hui scientifiquement sur les troubles des conduites alimentaires. Hein. C'est pas quelque chose qui prédispose a priori à créer du trouble. Ce qui prédispose, c'est en fait, surtout pour le trouble, on va dire, le plus dangereux, hein, finalement, l'anorexie mentale, ce qui prédispose, c'est les restrictions qui peuvent arriver à l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire autour de la puberté, à partir de 12 ans jusqu'à 25 ans, on peut trouver des débuts d'anorexie mentale, chez des personnes qui vont faire des régimes. Souvent, le point de démarrage des troubles du comportement alimentaire, il faut quand même le souligner très fortement, ce sont les restrictions alimentaires à base de régime, de jeûne, pour limiter la prise de poids ou perdre du poids.
Oui.
Ça, c'est l'entrée dans le trouble.
Est-ce que tu es d'accord avec la question selon laquelle l'anorexie se serait liée à une volonté de contrôle absolu sur ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire son corps ?
Oui, c'est un contrôle qui est inconscient. Donc c'est faut toujours se méfier un petit peu de comme si c'était la personne qui souhaitait contrôler. En fait, non, la personne à un moment donné elle prend contrôle quand elle décide de faire un régime, hein, comme peut-être que plusieurs personnes là qui nous écoutent ont déjà fait un régime alimentaire, hein, dans l'intention de maigrir ou de ne pas augmenter la masse corporelle. Mais il y a un moment où chez l'anorexique, en fait, quand se déclenche la maladie, il n'y a plus de contrôle sur le contrôle, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que là où le poids, bah c'est bon, elle a suffisamment minci, elle est très jolie, tout va bien, bon, tout devrait bien aller par rapport à l'objectif premier, mais en fait non, là quelque chose se déclenche qui en fait fait qu'il n'y a plus de contrôle du tout et que l'amaigrissement va se continuer bien au-delà de ce qui était défini au départ comme projet.
Tout à fait.
Et c'est là le danger, en fait. Donc, en fait, on peut pas vraiment associer ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui se font autour de problématiques biologiques, hein, quand même, au niveau du cerveau, des problématiques peut-être addictives, aussi beaucoup de pans de recherche, en tout cas chez les anorexiques, sur cette perception du schéma corporel. Le schéma corporel, c'est la perception que nous avons de notre corps par les perceptions internes, les sensations intérieures du corps. Et il y a un déficit véritablement chez ces personnes. Donc pendant très longtemps, on parlait plutôt d'image de soi par rapport au miroir, mais en réalité, il y a aussi cette conscience intérieure de la forme du corps qui est... il y a des problèmes, quoi. Il y a des problèmes. Donc la personne ne se sent pas vraiment à l'intérieur, elle ne sent pas sa densité, sa profondeur. Donc là, il y a un travail qui est très intéressant à faire en accompagnement, bien sûr, des thérapies, des traitements médicamenteux ou autres, en sophrologie, en méditation, pour appréhender, en yoga aussi, pour appréhender ce schéma corporel par les sensations intérieures au corps. Et là, on arrive petit à petit à voir des résultats. Mais c'est souvent des traitements qui sont avec plusieurs thérapeutes et plusieurs directions, bien sûr, un nutritionniste, médecin, psychiatre, etc. Art-thérapie aussi.
Oui.
Ce sont des personnes qui sont en fait souvent qui sont hyperactives. Alors on le voit par une activité physique très importante qui va les aider à maintenir un poids bas ou à maigrir, hein, mais qui permet aussi une décharge de la sensation de faim. Vous savez, quand vous avez faim, c'est quand même, ça peut être même très douloureux en réalité, une sensation de faim. Hein. Pour quelqu'un qui l'aurait déjà ressenti, c'est vraiment des contractions stomacales assez intenses. Hein. Donc l'activité physique va faire que dans l'effort physique, il y a des douleurs musculaires, hein, qui accompagnent, bien sûr, dans l'effort, la respiration, etc. Et ça permet finalement aussi de calmer cela d'une certaine manière. Elles sont aussi hyperactives sur le plan intellectuel. Mais c'est plutôt, on va dire, des entre guillemets, des bêtes à concours, avec un rapport au savoir qui est cumulatif, encyclopédique. Et finalement, ce sont des personnes peu créatives et qui, avec peu de plaisir dans leur vie, voire pas du tout. Et le seul plaisir qu'elles ont à un moment donné, c'est de sentir cet estomac-là vide, voilà, cette sensation de contrôle sur le corps. Voilà.
Oui.
Mais je parle au féminin parce qu'il y a quand même plus de filles que de garçons, mais quand même, attention, on voit de plus en plus des garçons. Alors c'est pas la forme du corps de l'anorexie comme on a l'habitude quand on voit certaines images par rapport à la mode, etc. Mais les garçons, c'est le corps sèche, sec.
Oui. Vous
voyez, c'est la masse musculaire sans graisse. Sec et athlétique, voilà. Et mais après, il peut y avoir quand même, attention, hein, on est parfois à la frontière de l'anorexie, voire certains jeunes hommes tombent dans l'anorexie également. Hein. Donc voilà, je veux dire que les... Bon, quand même... Alors, l'idée, en fait, par rapport aux troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie ou la boulimie, hein, c'est des accès hyperphagiques, en anglais on dit binge eating, de manger de grosses quantités très rapidement. Bon, ben, c'est... j'ai perdu un petit peu le fil, excusez-moi. Je suis partie sur autre chose.
Oui,
j'ai
tu parlais
un peu le fil.
De boulimie, de se remplir
l'estomac. Oui, voilà,
je
parlais de la boulimie. Très
vite. Oui,
oui. Bon, et ben, voilà. Alors, la boulimie, pour en parler un peu plus, ben, c'est vraiment... voilà, c'est des temps où on va se nourrir de façon... avec une perte de contrôle pendant la crise. Là, par contre, c'est une véritable perte de contrôle par rapport à la quantité, aux arrêts, comment arrêter, le contrôle de ce qui est mangé également. Hein, c'est-à-dire que dans ces cas-là, on peut manger de tout, mais c'est impressionnant, quoi. C'est même des choses qui crues, qui seraient totalement... voilà, qui sont plutôt dégoûtantes à la base quand on les voit comme ça. Hein. Mais là, dans cet accès-là, il y a vraiment la perte de contrôle avec et c'est quelque chose de terrible parce que après la crise, les personnes vont être vraiment ont une estime d'elles-mêmes qui est totalement au bas, le plus bas, et elles sont souvent très culpabilisées. Et du coup, dans la boulimie, il va y avoir la mise en place de comportements compensatoires pour limiter la prise de poids. Donc c'est là qu'on peut trouver les vomissements, les laxatifs, les jeûnes également, et puis l'exercice physique excessif. Hein. Voilà. Et puis on peut encore différencier avec les accès hyperphagiques. C'est comme dans la boulimie. Hein. Il y a des temps comme ça où on se nourrit de binge eating. Mais là, par contre, il n'y a pas de recours à des moyens pour éviter de prendre du poids. Voilà. Donc la personne, là, évidemment, va prendre du poids. C'est-à-dire que dans l'accès hyperphagique, on voit les personnes peuvent devenir aller jusqu'à l'obésité, bien évidemment. Alors que dans la boulimie, c'est là où on se méfie souvent pas trop de ce genre de troubles, c'est que la personne se faisant vomir ou utilisant des moyens pour ne pas grossir a un poids dans la norme. Elle a un IMC tout à fait normal.
Est-ce que ce sont des comportements, qui sont très actuels, qui n'existaient pas avant? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça au niveau de l'évolution?
Oui, alors en fait, bon, alors boulimie et accès hyperphagique, effectivement, c'est quelque chose d'assez actuel qui est arrivé avec la société de consommation. Clairement, avec la nourriture en profusion et en abondance, on a l'habitude de faire un dessin qui représente la map monde avec un corps humain, on va dire, hein, qui se superpose sur cette map monde. Et généralement, les endroits où il y a des... ça fait la forme du sablier. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si à l'équateur, tout le tour de sur l'équateur, eh bien, il y avait de la minceur. Et puis plus on monte un peu vers les pôles, là, puis ça enfle, et que ce soit pôle sud ou pôle nord. Hein. Voilà, donc on voit que c'est avec la société industrialisée et la nourriture à profusion, avec aussi, il faut bien dire, hein, on a quand même aujourd'hui démocratisé la nourriture de façon importante hein, au niveau des coûts. Hein. Malgré ce qu'on en pense, nos grands-parents ou arrière-grands-parents ne pouvaient pas manger du beurre, de la viande, des pâtisseries tous les jours. Hein, loin de là, ils n'en avaient pas les moyens financiers, c'est sûr.
Et puis la grosse différence, c'est qu'on mange énormément sucré maintenant.
Oui. C'est sûr que le sucre va amener évidemment de l'énergie rapide qu'il va falloir derrière beaucoup d'exercices physiques pour éliminer. Disons que le sucre, il stocke immédiatement en graisse hein, chez certaines personnes. Hein. S'il n'y a pas d'activité physique, la sédentarité va faire que le sucre est stocké immédiatement en graisse. Il faut savoir que pour perdre 1 kg de masse graisseuse, il faut une dépense énergétique considérable. Hein.
Oui.
Alors que pour perdre du muscle, là par contre, c'est extrêmement rapide. Donc je reviens là à ces régimes dont on voit partout, hein, que ce soit sur Internet, à la télévision, etc., toutes ces publicités pour ces régimes à perte de poids rapide qui sont extrêmement dangereux en réalité, parce que si vous perdez du poids rapidement, ça veut dire que vous perdez automatiquement de la masse protéinée du muscle. Et il faudrait faire du sport de façon 4 à 6 heures par jour pour arriver à perdre uniquement de la graisse quand on est dans ce genre de régime hypocalorique.
Oui, on le voit par exemple avec les vélos d'appartement qui décomptent les calories qu'on a perdues. Ouais. Mais rien que pour manger un biscuit, il faut pédaler un quart d'heure. C'est quand même assez décourageant.
Mais tout à fait, parce que si on veut perdre effectivement de la graisse et non pas de la masse musculaire qui est gorgée d'eau en réalité. Le muscle, c'est 70% d'eau. Hein. Et le problème, c'est quand vous perdez de la masse protéinique, vous allez perdre, vous allez aussi pouvoir, malheureusement, l'organisme, va perdre aussi en immunité. Enfin, les protéines sont en lien avec le corps humain, avec tout un pan de la vie. Hein. Voilà, c'est vraiment une énergie présente qui nous maintient en vie, la protéine, hein, au niveau intracellulaire, etc. Donc, par contre, la graisse, évidemment, c'est un plus. Hein. Les hommes de Néandertal, etc., et d'ailleurs, on le voit hein, dans les peuplades qui sont protégées en Amazonie, hein, qui vivent encore comme il y a des milliers d'années, il n'y a pas de gras, hein, il n'y a pas de gras du tout. Hein. Alors, il y a quelques personnes, attention, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des corps de formes différentes. C'est-à-dire que là où nous, dans nos sociétés, on se trompe, c'est que tous les corps sont différents. On n'est pas forcément tous minces et sveltes.
Oui.
Pas du tout. Et les hommes athlétiques et secs.
Oui.
Non. Il peut y avoir des disparités de corps, et notamment avec l'âge, évidemment que les corps se transforment. Et il faut savoir accepter aussi que les corps soient différents. Voilà. Et c'est là qu'il y a un vrai problème sociétal. C'est que notre société nous engage à être tous identiques, en réalité. Identiques à ces photos qu'on nous envoie sur Internet ou autre de ces jeunes filles prépubères. Et à 40 ans, 35 ou autre, vous devriez avoir encore ce corps-là. Et puis, idem pour les hommes, ils devraient tout le temps avoir des muscles, des abdominaux en barre chocolatée, des épaules larges. Bon, ben ça, oui, mais ça veut dire que derrière, il y a énormément de sport, d'activité physique, et que malheureusement, nous n'en avons absolument pas le temps ni l'énergie.
Ben oui. Après, ça varie selon les périodes, parce que, par exemple, à l'après-guerre, c'était la mode des femmes plutôt plantureuses. Et puis, quand il y a eu un excès de consommation dans le domaine alimentaire, à partir des années 70, eh ben, c'est devenu la mode d'être mince. C'est en fait le caractère le plus rare, quelque part, qui est recherché. La même la musculation, bah, maintenant, les hommes font de moins en moins des travaux physiques. Donc,
les hommes
musclés se font rares, sauf s'ils vont à la salle de sport régulièrement.
Oui, et encore, ça va prendre des proportions parfois qui sont tout aussi gravissimes, avec un surdéveloppement de la masse musculaire et l'absorption de protéines, enfin d'espèces de cocktails incroyables pour sustenter tout ça. Voilà, c'est pas mieux. Là aussi, un gros problème de santé là-dessous, hein, quand même. Hein. Mais bon, il y a une économie qui fonctionne vraiment derrière ça de façon importante. Hein. Tous ces substituts alimentaires se vendent très cher et voilà. Bon, c'est soutenu quand même par tout un mode de fonctionnement, de consommation, parce que la minceur, si on veut garder cette minceur pour les femmes, en tout cas, c'est extrêmement compliqué et ça demande de faire des restrictions régulières. Et malheureusement, l'effet yo-yo, hein, quand on parle de l'effet yo-yo, c'est, on le sait, hein, ça a été mesuré, plus d'une fois, maintenant c'est archi connu, on récupère, voire on va augmenter même la prise de poids 1 à 2 ans après le régime initial.
Oui. Et alors, selon certains scientifiques, le fait de manger trop d'aliments transformés, ça créerait carrément une inflammation du cerveau. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, bon, là, je n'ai pas de connaissances particulières à ce sujet, mais j'imagine que si ça a été décrit et, dans des articles scientifiques, oui, oui, c'est bien probable. Bah, de toute façon, la chimie... si on est dans une logique, on va dire, intuitive... empirique, il semblerait que de manger des aliments modifiés avec des ajouts de substances chimiques, etc., évidemment que ça va générer une inflammation sur un organisme qui lui est vivant et biologique, enfin je veux dire qui mange de l'alimentation, on va dire, depuis des milliers d'années. On mange quand même des choses très simples, hein, qui sont juste cuites, hein.
Oui.
Y a la cuisson qui apporte un phénomène d'effet sur la digestion qui est facilité, mais d'où la cuisine. Hein. Mais après, les apports chimiques, etc., ça, encore une fois, c'est arrivé après-guerre. Hein. Ouais. Donc c'est très récent pour l'organisme humain. Donc il n'y a pas véritablement d'adaptation possible à ce niveau-là.
Et là, c'est le suspense. On se retrouve demain, on va parler, Florence Rata va nous donner une solution à ces problèmes de comportement alimentaire. Et la solution, c'est pas politiquement correct du tout, c'est un collectif qui s'appelle Le Gros et qui vous dit de céder à toutes vos pulsions. Donc, on a hâte de retrouver Florence Rata demain, elle va nous expliquer tout ça. Et en attendant... on va écouter une chanson qui correspond bien au thème. Le titre, c'est « J'ai faim, j'ai soif » et le chanteur, c'est Alain Lelay, tout simplement.
J'ai faim,
je mange,
j'ai soif,
je bois,
quand j'ai sommeil,
je dors.
J'ai faim,
je mange,
j'ai soif,
je bois,
quand j'ai sommeil.
Chartreuse sur le 98.4 ou le 106 FM au cœur du massif. Retrouvez toutes nos infos sur www.radiocouleurchartreuse.org. Ne changez rien.
Et comme promis, on va parler maintenant salon job d'été, 250 postes à pourvoir avec Vincent Legris. Nous sommes donc avec Vincent Legris. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Alors Vincent, nous ça fait un moment qu'on se connaît. Tu es référent de proximité à la mission locale sur l'avant-pays savoyard. Et est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs un petit peu qui tu es, qu'est-ce que c'est qu'être référent de proximité?
Alors du coup, bonjour à tous. Donc Vincent de la mission locale, alors j'assure des permanences sur l'avant-pays savoyard, sur Yann, Novalaise, Les Échelles et Saint-Genis-sur-Dier. Et mon rôle, c'est d'accompagner les jeunes, donc de 16 à 26 ans, et sur un autre dispositif jusque 29 ans, dans leur démarche d'insertion. Donc ça peut passer par l'emploi, la formation, la santé, le logement, la citoyenneté, la mobilité, puis aussi les aides financières pour tout ce qui concerne le permis, le fonds d'aide aux jeunes, enfin tout ça. Voilà, un peu en gros mission.
Mais c'est un métier qui existe depuis longtemps.
Oui, c'est un métier qui existe depuis de nombreuses années. Mmh. Les permanences également sur l'avant-pays existent aussi depuis quelques années déjà. Et c'était d'autres interlocuteurs qui étaient sur mes fonctions, du coup. Voilà.
Mais toi, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce parcours professionnel ? Est-ce que tu as toujours été motivé pour aider les autres, principalement les jeunes ?
Ouais, ben, mon leitmotiv, c'est les jeunes, quoi. C'est pouvoir essayer de les accompagner de la meilleure manière en fonction de leur parcours personnel, professionnel, scolaire, et essayer de qu'ils puissent s'insérer et puis trouver ce qu'ils souhaitent, en tout cas en termes d'emploi, de formation, qu'ils puissent vraiment se réaliser, se mobiliser sur leur parcours.
Et en parlant d'emploi, imaginons qu'il y en ait un qui nous écoute et qui se dise « Ah, ça doit être super ce métier de référent de proximité, il faut faire quelles études ?»
Alors moi, j'ai été pas mal de temps dans le secteur du commerce. Après, je me suis réorienté il y a 4-5 ans. J'ai passé un diplôme de moniteur éducateur. Ensuite, j'ai travaillé dans des foyers au niveau de la Fondation du Bocage sur Chambéry. J'accompagnais donc des jeunes qui étaient placés par le département. Et ensuite, j'ai eu une belle opportunité pour des jeunes un peu plus âgés, donc de 16 à 26 ans, et de pouvoir les accompagner. Ça s'est fait assez naturellement et c'est vraiment une super expérience.
D'accord, ça va donner envie à certains. Alors, la mission locale, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de pôle emploi, mais pour les jeunes ?
Après, il n'y a pas que l'emploi.
Oui, c'est vrai.
On ne peut pas forcément comparer.
Plus global, du coup.
C'est beaucoup plus généraliste. On personnalise vraiment l'accompagnement. Et puis, il y a aussi un dispositif pour lequel je travaille, où il y a encore beaucoup plus de temps à consacrer en fait à des jeunes qui seraient un peu perdus dans un parcours, pas forcément soutenus. Et du coup, il y a cette souplesse qui est plus intéressante et qu'en tout cas j'essaie de mettre en place au quotidien avec certains jeunes. Pôle emploi, ils ont vraiment leur façon de faire et qui fonctionne, mais c'est vraiment deux choses différentes.
Est-ce que tu as du mal à recruter, entre guillemets ? Est-ce qu'il faut que tu ailles vers eux ou est-ce qu'au contraire tu es submergé par les sollicitations de ces jeunes ?
Frappé, c'est par période, mais après les jeunes savent effectivement que la mission locale existe. Et après certains, oui, il faut essayer de les repérer, essayer de communiquer pour qu'ils puissent solliciter la mission locale et puis entamer des démarches personnelles. Donc ça peut passer par les réseaux sociaux avec le Facebook de la mission locale, le bouche à oreille des professionnels, que ce soit dans la santé, dans la justice ou autre, qui communiquent auprès des jeunes en leur précisant que la mission locale c'est ça, 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 et puis qu'on est disponible.
Est-ce que cette période de pandémie a eu un impact sur la mission locale, sur les jeunes ? Tu as constaté quel impact, en fait ?
Alors, je dirais que le premier confinement vraiment a été quand même assez difficile, je pense que pour tous les professionnels, puis aussi pour les jeunes. Même si on a réussi à maintenir le lien à distance, avec le téléphone, les visios, puis les mails. Après ce premier confinement, donc on est revenu, c'était plutôt fin mai, début juin, et je trouve qu'on a été encore beaucoup plus présents. Et même le deuxième confinement, finalement, je travaillais toujours sur les permanences, j'étais encore deux fois plus disponible. Et je trouve que le seul impact était le premier confinement, mais après ça s'est plutôt bien passé. Et les jeunes, ont été plutôt contents de se dire, la mission locale est quand même là, malgré le Covid.
Du côté de l'emploi, je suppose que ça a eu des conséquences aussi, cette pandémie.
Oui, effectivement, c'est des conséquences que les entrepreneurs, puis par secteur d'activité, ont été plus touchés que d'autres. Après, comme je voulais y venir aussi, c'est le constat par rapport à l'année dernière a été qu'il y a eu un manque de synergie entre les entrepreneurs présents sur l'avant-pays savoyard et les jeunes locaux, notamment sur les jobs d'été. Et du coup, voilà, avec la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence de la Savoie, plus Pôle emploi et les quatre services jeunesse de la commune, des quatre communautés de communes de ce grand territoire, on s'est dit que ce serait peut-être bien de pouvoir créer un salon dédié Job d'été pour que les entrepreneurs comme les jeunes puissent vraiment trouver ce lien, c'est notamment sur l'emploi saisonnier, parce qu'il y en a quand même pas mal sur l'avant-pays savoyard. Donc de ces longs mois de travail, de construction par rapport à ce projet, il y aura le samedi 24 avril 2021, sur certains bancs de Montbel, un salon de job d'été, où il y aura effectivement à peu près 250 postes à pourvoir, ce qui est quand même pas mal.
Oui.
Tous les secteurs d'activité seront représentés. On aura le tourisme, l'agriculture, la viticulture, le secteur du commerce, l'industrie, les services d'aide à la personne, et j'en passe. Donc, il y aura à peu près une trentaine de professionnels qui seront présents pour représenter leur association. Par exemple, les acteurs de la baronnie seront présents avec deux personnes qui représenteront une trentaine d'entreprises présentes sur le secteur de Pau. Et après, il y en a d'autres aussi. Donc, je pense que ce sera vraiment un événement à ne pas rater pour les jeunes.
Alors, pour ceux qui sont nuls en géographie, je précise Saint-Alban-de-Montbel. Je suis allée voir sur la carte. C'est au bord du lac d'Aiguebelette.
C'est ça, tout à fait. Donc, la communauté de communes du lac d'Aiguebelette a proposé pour cette première année d'accueillir le salon de job d'été. Et qui sera effectivement, si cela fonctionne plutôt bien, et je suis persuadé que ça va fonctionner, les années suivantes, voilà, peut-être que la communauté de communes de Yenne, cœur de Chartreuse ou Valier accueilleront effectivement cet événement.
Donc l'événement, il commence à 8h30 par un pot d'accueil et une inauguration. Et le public aura accès au salon à partir de 9h jusqu'à 13h. Par contre, j'ai vu qu'il devra respecter des plages horaires, c'est-à-dire...
Alors, pour respecter voilà les mesures sanitaires, il y aura 3 sessions. Donc 9h, 10h, 10h, 11h et 11h midi. Donc limité à 30 jeunes par session. Donc en gros, c'est 9h à midi, parce qu'en fait, je rectifie, le midi à 13h, ce sera un temps d'échange entre les organisateurs et les professionnels, donc du coup, il n'y aura plus d'accueil public, en tout cas pour les jeunes. Donc c'est vraiment sur ces 3 heures-là, sur ces 3 sessions, où les jeunes pourront effectivement défendre leur candidature sur différents postes.
Comment ça se passe concrètement? Ils arrivent avec un CV et il y a des stands, c'est comme ça?
Oui, tout à fait. Donc les jeunes viendront avec leur CV. En fait, si tu veux, je te tutoie.
Oui.
En fait, il y a un lien sur une landing page qui a été créée, donc qui reprend tous les caractéristiques de cet événement, plus un lien où chaque jeune doit s'inscrire. Donc nom, prénom, âge, enfin voilà, c'est assez rapide. Et suite à ça, ces inscriptions me seront tournées par mail pour vraiment checker les 30 jeunes. Arriver les premiers qui pourront effectivement accéder à chaque session.
Et ils n'ont pas de réponse tout de suite, je suppose.
Après, moi, je m'occuperai effectivement de, voilà, de leur préciser que c'est OK, je renverrai un mail, et plutôt au début avril. Mais en tout cas, dès qu'ils s'inscrivent, c'est bon. Moi, j'ai le retour de leur inscription, et ça fait foi, du coup, ils pourront effectivement participer au salon. Après, au niveau de chaque jeune venir avec effectivement un CV, et pour ceux qui n'auront pas l'opportunité d'imprimer, de préparer un CV assez convaincant, il y aura effectivement un monsieur, un professionnel qui s'appelle Monsieur Dumollard, qui fera des entretiens flash, une préparation d'entretien flash dans le premier sas du salon pour préparer les jeunes à présenter leur candidature professionnelle.
D'accord. Eh ben, on espère que l'été prochain, ça se passera mieux que celui d'avant, parce que c'est vrai qu'il y a eu plein de jeunes qui avaient des jobs d'été qui ont été annulés, finalement.
Ouais.
Tu es confiant, là, ou stressé?
Ah non, je suis plutôt confiant. J'ai eu le retour de tous les professionnels, donc ils seront présents. La salle est validée. Je travaille déjà sur la conception de la salle. Beaucoup de bénévoles sont présents aussi pour accueillir les jeunes, les orienter dans le salon. Enfin, voilà, tout sera en tout cas prêt pour le jour J.
Bon. En tout cas, merci de penser à eux. Ils sont pas trop démoralisés, tu les sens comment?
Bah non, ils sont plutôt empreints d'une belle énergie, en tout cas lorsque je leur propose cette opportunité de trouver un job d'été. Tous, hein, peu importe leur cursus scolaire, universitaire ou autre, ils attendent ça avec impatience. Après, comment je pourrais rajouter d'autres... Après, il y aura aussi des partenaires institutionnels qui seront présents dans la première phase du salon. Donc, il y a l'ami sur local du Bassin Jean-Mérien, il y a Pôle emploi, il y a l'IMOVE, qui est une association qui propose des solutions de mobilité, parce qu'on sait très bien que l'avant-pays savoyard, c'est assez compliqué pour se déplacer. Et l'IMOVE, donc représentée par Madame Bouju, sera présente pour... faire un diagnostic avec chaque jeune, en tout cas ceux qui le souhaitent, pour essayer de trouver des opportunités voilà, dans la mobilité, que ce soit les vélos assistance électrique, les scooters, les permis, enfin les voitures, enfin tout ça. Plus après aussi un autre partenaire qui se nomme Cap Emploi, donc pour les personnes en situation de handicap, parce qu'aujourd'hui sur l'avant-pays, il y a certains jeunes qui se retrouvent dans ces conditions et l'accès à l'emploi est... un véritable parfois parcours du combattant.
Oui.
Donc, du coup, Cap Emploi pourra apporter des réponses, apporter des solutions aussi pour ces personnes qui ont un handicap quelconque, invisible ou pas visible. Voilà, et ensuite, il y aura Association Addiction France, qui est anciennement ADPA, qui sera plutôt là pour sensibiliser les jeunes voilà, aux addictions globales et surtout faire le lien entre le monde du travail et l'addiction.
Ah oui, une journée qui va être vraiment productive là ce samedi 24 avril à Saint-Alban de Montbel. Et sinon, dans les autres actions de la mission locale, qu'est-ce qui se passe actuellement?
Ouais, alors je vais juste rajouter une autre chose aussi. Sur la partie extérieure du salon, il y aura le bus de l'industrie, donc qui est porté par la commune de Valguy et l'IMM. Du coup, ce sera un bus pour faire découvrir aux jeunes le monde de l'industrie, parce qu'il y a une image qui n'est pas forcément favorable par notre histoire industrielle. Et du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions, et c'est pour vraiment resensibiliser les jeunes à ces métiers qui existent et qui évoluent. Donc voilà, le bus de l'industrie sera présent aussi à l'extérieur du salon, plus le bus de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, qui proposera d'être voilà, un petit café, pour discuter avec les jeunes qui le souhaitent, surtout sur rien, mais en tout cas voilà, c'est important qu'ils puissent être présents. Il y a un professionnel qui travaille sur l'avant-pays, qui est éducateur, et du coup qui s'attache vraiment à être présent pour voilà, tisser un lien avec les jeunes de l'avant-pays.
Oui, ben, tout est prévu.
C'est exactement.
Et je disais, oui, dans les autres missions de la mission locale, justement, actuellement, il y a des choses de prévues?
Bien sûr, il y a des autres forums emploi, salons de l'OBT qui seront prévus sur d'autres territoires, pardon, et d'autres actions, des bus itinérants, notamment sur la Combe de Savoie, où ils se rendent sur des lieux où il n'y a pas forcément d'accès, en tout cas, des institutions voilà, pour les démarches administratives, l'insertion professionnelle, sociale, etc. Et puis d'autres aussi, en tout cas en construction. Donc ça bouge pas mal au niveau de la mission locale, sur tout le département.
Eh ben bravo pour tout ce que vous faites. Hein. C'est...
On fait ça pour les jeunes et puis avec plaisir, avec le sourire.
Oui, en plus. Toujours à fond.
Exactement.
Eh ben en tout cas à la radio on tiendra les auditeurs au courant de tout ça, et j'ai vu que vous avez un site qui est très très bien fait.
Oui, tout à fait, ouais. Il est entretenu quotidiennement par des professionnels donc de la mission locale qui s'attachent vraiment à le rendre visible, attractif et stimulant en tout cas. Donc, ça marche plutôt bien. Et ce qui serait bien, c'est peut-être de laisser un lien sur le site ou alors sur les réseaux de Radio Couleur Chartreuse.
Oui.
Avec le lien pour accéder à la landing page et du coup au bordereau d'inscription.
C'est ce qu'on fera. Ben, merci beaucoup Vincent Legris pour la mission locale. Je pense que du coup, plein de jeunes sont impatients d'assister à ce salon au job d'été.
Eh bien, je serais ravi de les accueillir le samedi 24 à partir de 9h.
À Saint-Alban de Montbel, à la salle François Cachou.
Donc,
je rappelle que ça concerne les jeunes de 16 à 29 ans.
Tout à fait. Hein.
Merci, bonne journée. Ouais. Au revoir.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse. RCC.
Et maintenant, on va écouter un petit peu de musique. Alors, c'est pas tout simplement de la musique puisque c'est Etta James. Le titre du morceau, c'est At Least. Et Etta James, eh bien, c'est une pionnière du rock'n'roll et de la musique pop contemporaine. C'est une carrière qui s'étend sur 6 décennies. Et elle a une voix très particulière, une voix rock qu'elle a imposée dès les années 50, qui a ouvert la voie à Tina Turner, Janis Joplin ou plus récemment Adele ou Amy Winehouse. On l'écoute.
Are over, and life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I heaven. For you are mine at
Radio Couleur Chartreuse, c'est aussi sur internet. www.radio-couleur-chartreuse.org.
Et maintenant, on va voir ce que les planètes vous réservent aujourd'hui. Alors si vous êtes bélier, vous avez tendance actuellement à vous isoler, ce qui n'est pas une bonne chose parce que quand même votre préoccupation principale, c'est votre carrière et vos objectifs. Donc il va falloir oser relever le défi. Taureau, en ce moment vous avez l'esprit d'équipe et vos amis apprécient et de ce fait, des projets de sortie en groupe ou de voyage pourraient bien voir le jour. Gémeaux, vous avez pas mal de soucis d'ordre financier, mais vous allez savoir manœuvrer aisément pour arriver à vos buts. Faites tout de même un bilan comptable dès que vous le pouvez, c'est le conseil du jour. Cancer, particulièrement sensible aux vibrations de vos collaborateurs, vous tenez compte de leur avis pour élaborer une nouvelle stratégie dans le cadre de vos activités. Lion, aujourd'hui prenez de sages résolutions vis-à-vis de votre travail ou de vos problèmes financiers. Accordez-leur le temps nécessaire, mais sans plus. Vierge, si vous êtes en couple, tout semble baigné dans une atmosphère agréable. Et si vous êtes célibataire, vous voilà dans une période favorable aux rencontres. Balance, vous êtes physiquement au travail, mais mentalement à la maison. Ah là là. Afin de ne pas vous dédoubler, il vous est conseillé de terminer d'abord vos activités. Scorpion, vous avez le don de convaincre les plus méfiants de vos qualités. Certains boivent même vos paroles, mais assurez-vous ensuite de tenir vos promesses. Sagittaire, aujourd'hui, vous êtes dans vos comptes et vous prévoyez certains investissements, mais pensez aussi à faire plaisir à l'un des membres de votre famille. Capricorne, c'est le moment de reprendre contact avec vos interlocuteurs, que ce soit par téléphone ou par email. Et si vous devez vous déplacer, n'hésitez pas, ce sera très très positif. Verseau, eh ben, d'un côté vous avez envie de croquer la vie à pleines dents et de l'autre vous souhaiteriez qu'on vous laisse tranquille. Vous avez des rêves d'îles désertes, sauf qu'il faut quand même penser qu'il n'y a pas grand chose sur une île. Poisson, aujourd'hui vous gagnez à mettre votre ego de côté afin de vous ouvrir à votre entourage. Vos amis peuvent être de bons conseils, surtout si vous partagez vos projets. On va poursuivre en musique, on va écouter un petit morceau d'Edith Piaf, Johnny, tu n'es pas un ange.
Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange.
Et voilà, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Je vous donne rendez-vous demain. On va parler du collectif Le Gros, plein de solutions à vos problèmes du trouble du comportement alimentaire, si vous en avez, bien sûr. Bonne journée à tous et à toutes. Ciao, bye bye.
Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né, Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner. Ah, Johnny.